Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio et on se retrouve dans quelques secondes avec deux héroïnes, Auratika et Eden Ducourant. Elles seront ce soir sur TF1 dans la série qui cartonne Pour Sarah, 0826 300 300 si vous voulez leur parler. Je sais que vous êtes nombreux à regarder cette série. Et puis lundi, les tarifs du gaz ont baissé. Alors est-ce que ça a baissé sur votre facture? Pas facile de s'y retrouver sans parler des appels de démarcheurs à longueur de journée. On va tout vous dire tout à l'heure sur la meilleure manière de choisir son opérateur de gaz. Soyez avec nous et on se retrouve dans quelques instants.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à tous et à tous, avec vous pour le 10h midi, 2h d'info. On va parler des tarifs du gaz qui baissent. Alors comment bien choisir son opérateur? Ce sera à 10h30. Auratika est contente parce qu'elle cuisine, donc voilà. On est avec Auratika, bonjour, et Eden Ducourant, bonjour. Vous êtes les héroïnes de la série, oui, les stars de la nouvelle série Pour Sarah, nouvelle série sur TF1 qui a très très bien démarré la semaine dernière. C'est troisième et quatrième épisode qui seront diffusés ce soir. On va en parler avec vous dans un instant. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs de Sud Radio qui ont regardé Pour Sarah la semaine dernière. Parce qu'on pose la question à nos auditeurs. Qu'avez-vous regardé hier soir? 0826 300 300. Également le Facebook de Sud Radio si vous voulez réagir et poser des questions à Auratika ou à Eden Ducourant. Alors hier soir à la télévision, vous avez regardé quoi?
J'ai cuisiné des pastas à des spaghettis al vongole.
Bon, et vous regardez la télé en cuisinant?
Non. J'écoute de la musique ou je discute.
Voilà,
non,
bon,
non.
Et Eden, vous avez regardé?
Moi, j'ai cuisiné avec une amie au restaurant et je ne regarde pas la télé au restaurant.
Bon, on va revenir sur ce que vous regardez à la télé tout à l'heure. Hier soir, il y avait The Good Doctor sur TF1 qui a cartonné 4 600 1000 téléspectateurs, 20% de part de marché. Deuxième position, Alex Hugo qui marche toujours très bien. Oui. Ce sont des rediffs, mais il a son fan club, notre ami Samuel Le Bihan. 3 196 000 téléspectateurs, 14% de part de marché, 14,7 exactement. Le meilleur pâtissier, vous auriez pu regarder Auratika, le meilleur pâtissier, troisième position, 2 539 000 téléspectateurs. Il y avait un dessert
ils ont apporté le dessert d'un très bon pâtissier.
Très bon pâtissier, voilà. Bon, d'accord. Et puis, à signaler quand même les championnats du monde d'athlétisme, 2 239 000 téléspectateurs, 10,2% de part de marché, 500 000 de plus que les jours précédents, c'est un peu mieux. On a beaucoup commenté ici le flop de ces championnats qui sont un véritable scandale au Qatar. En tout cas, ça a un petit peu mieux marché. Peut-être qu'effectivement, les médailles françaises y sont pour quelque chose. Marie, bonjour, vous êtes en ligne avec nous sur Sud Radio. Qu'avez-vous regardé hier?
Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, hier, j'ai regardé Le Meilleur Pâtissier.
D'accord. Et vous êtes fidèle de l'émission?
Oui, je suis un peu fidèle. Ouais. J'adore cette émission. Hein. Enfin,
et vous faites les gâteaux, vous, derrière, ou pas?
Oui, j'essaye, mais je suis un peu moins bonne que quand même.
mais ça donne des trucs pas mal, non?
Oui, ça va, je me débrouille.
Vous avez un chouchou parmi les candidats?
J'aime bien Mohamed.
Ah, il est très bien, Mohamed.
Ouais,
je pense qu'il va être dans les finalistes.
Bon, vous nous rappellerez, Marie, pour nous dire les gâteaux que vous avez faits après l'émission. Et puis, évidemment, on va en reparler. Hier, Sandra a regardé le replay de Good Doctor. Elle avait du retard. Miss Loot également. Donc, c'est une série qui marche plutôt bien. Mais vous regardez quoi en général? Vous la regardez, la télé, Auratika?
Pas beaucoup. Oui. Non, je l'allume, je regarde des films, je regarde quelques séries, mais pas beaucoup. Non, j'ai pas le réflexe, en fait.
Ah bon, vous êtes une... Non, pas...
Pour regarder des films ou des séries, oui, mais j'ai pas la... Oui,
enfin, voilà, les talk-shows, les choses comme ça, vous regardez pas trop...
Non, je sais même pas ce qu'il y a comme
Cyril Hanouna, vous avez entendu parler? Vous savez ce
que c'est? Oui, j'ai entendu parler, je suis même allée.
Quotidien.
Le quotidien, je regarde de temps en temps. Oui, j'aime bien le quotidien.
Et c'était comment alors d'aller chez Cyril Hanouna?
Ça s'est bien passé.
C'est sympa.
Ça va. Ouais, c'était plutôt bon enfant.
Est-ce qu'on angoisse avant qu'on ait une comédienne, avant d'aller dans ce genre de show?
Oui. Oui, sur Cyril Hanouna, oui. Parce que c'est à la limite, quand même.
Est-ce qu'il y a une émission où vous vous êtes dit un jour, j'aurais pas dû y aller?
Non, là, j'ai pas de souvenirs.
Pas de mauvais souvenirs. Non, ça va. De télé. Eden, vous regardez la télévision?
Pas beaucoup non plus.
Bon.
En ce moment, je la regarde parce que je suis sauvage. Sur Canal Plus.
J'ai découvert cette série
au Festival de La Rochelle et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Et sinon, non, je pense que je fais partie de cette génération qui est très Netflix, OCS, Amazon. Donc je regarde plutôt des séries sur ce genre de plateforme.
Et vous les regardez sur votre téléphone, sur des tablettes ou de la télévision reste quelque chose qui représente quelque chose pour vous?
Je les regarde sur mon ordinateur. Ouais.
Bon.
C'est dingue, c'est vraiment ça la nouvelle génération.
Mais c'est fini la télé.
Ouais, c'est, fini.
C'est un peu fini, ouais. Bah, dites pas ça parce que vous y êtes ce soir, donc vous avez intérêt à ce qu'il y ait du monde
oui,
qui vous regarde.
Oui,
hein. C'est votre première télé, c'était quand, Ratika? Vous vous souvenez? Première fois qu'on vous a vu dans la télé
pour un téléfilm,
je sais
pour
pas,
un
la première fois qu'on a vu Ratika à la télé.
Oh là là.
C'était pour une émission ou pour. Vous vous souvenez
vous
pas
séchez,
ah, c'est dingue, ça.
Non, je crois que c'était pour un téléfilm. J'étais gamine pour un téléfilm Hölderlin,
ouais.
Sur un poète allemand. Mais je devais avoir 12 ans.
Oui, vous avez commencé 13 ans, effectivement
comme ça, oui.
Très très tôt. Hein.
Je crois que c'était ça. Ouais. Ouais, ouais.
Eden, vous c'est certainement plus récent.
Non, moi j'ai commencé à 12 ans aussi. Ouais. Donc la première fois, je crois que c'est dans Braco sur Canal+.
Ouais.
Ou non, ah non, non, avant j'ai... non, Alice Nevers, lui, jette une femme. Ah, j'étais voilà. Encore plus jeune.
Vous étiez encore plus jeune. Allez, on va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors, les filles, vous êtes trois filles, voici mon zapping du jour. Hier, Quotidien recevait le dessinateur Rhys, qui a échappé, vous savez, à la tuerie de Charlie Hebdo, et qui raconte dans un livre comment il a vécu cette fusillade d'une minute 49. Depuis, sa vie n'est plus la même.
Quand on perd des événements comme ça, on ne se pose pas la question. On pense que la vie nous est due. C'est normal d'être vivant, c'est normal de faire plein de choses comme ça. Mais quand vous traversez ce genre d'épreuve, après, vous vous posez des questions. Enfin, vous doutez de tout. La vie n'est pas due. Rien ne vous est dû. Cette journée, il faut que je la mérite. Il ne faut pas gaspiller son temps à des choses futiles, même si ça fait du bien de temps en temps.
Hier, n'en touche pas à mon poste, Éric Nolo, qui avait enregistré le matin l'émission Zemmour et Nolo de Paris Première, a précisé chez Cyril Hanouna la position de la chaîne Paris Première concernant les dernières frasques d'Éric Zemmour.
Il y a eu un communiqué de la chaîne qui a été lu et qui a fixé à Zemmour les deux limites, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être à la fois chroniqueur et homme politique et il ne peut pas franchir les limites de la loi. Alors, est-ce qu'il va tout perdre? Moi, je dis non parce que ça dépend de lui. Maintenant, ça dépend de lui. S'il ne respecte pas ces deux limites, je pense qu'il n'y aura pas d'autres avertissements, que le deuxième jaune sera un rouge. C'est la position de la chaîne.
Et justement, dans l'émission de Paris Première, Zemmour et Nolo, Éric Zemmour est revenu sur ses propos qui font désormais l'objet d'une enquête, d'une ouverture d'enquête. Éric Nolo lui a dit que sa comparaison entre l'islam et le nazisme, il avait franchi les limites.
Tu diras ça au grand écrivain que je sais que tu admires, André Suarez, qui comparait dans les années 30 l'islam au nazisme. Tu diras ça à Paul Claudel, qui comparait l'islam au nazisme. Tu diras ça au grand spécialiste de l'islam, Maxime Rodinson, qui disait l'islam, c'est le communisme avec Dieu. Et tu te souviens...
Le communisme.
Le communisme et le nazisme, c'est la même chose pour moi. L'islam est une religion totalitaire qui prend en charge les individus, que ça te plaise ou non. On a le droit de critiquer une religion.
Hier sur TMC, il y avait un reportage, on en a parlé hier, sur les trottinettes, vous savez, ces engins qu'on laisse sur les trottoirs et qui sont dangereux pour les passants, mais pour la police, pas que.
Un flagrant là,
ouais.
Vous avez la trottinette allongée au sol, comment voulez-vous qu'une personne aveugle la voie?
Voilà. Comment ouais. Voulez-vous qu'une personne aveugle la voie?
Ça, c'était dans le reportage.
Dans le reportage.
Zemmour, ça vous inspire quelque chose, Ratika?
Non, mais j'ai pas suivi. Enfin, j'ai suivi après coup. J'ai pas vu les images.
Ouais. Vous avez pas, vous avez enfin, la polémique autour du fait de savoir si on doit lui donner la parole ou pas dans les médias.
Oui, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on est. J'ai l'impression qu'ils ont retranscrit tout le, enfin qu'ils ont diffusé tout le discours.
Tout le discours. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ce qui a été. Puis les propos. Eden, vous avez pas suivi du tout?
Non, j'ai pas vraiment suivi.
Bon, d'accord. On va parler donc de Pour Sarah. Vous êtes Sarah, Eden Ducourant, sur TF1. C'est une mini-série, une adaptation d'un téléfilm, enfin d'une série québécoise. Vous êtes cette jeune femme qui est retrouvée, ado, hein, 18 ans. Vous êtes retrouvée avec Cédric, ami d'enfance, entre la vie et la mort. Ça, c'était le début de la série. Et là, on rentre dans un thriller absolument palpitant, qui mélange à la fois le drame, qui conduisait, pourquoi, et Horatica, vous êtes, vous, celle qui menait l'enquête.
Le fil rouge.
Le fil rouge.
C'est le fil rouge qui permet de suivre l'enquête, mais de voir aussi ce qui se passe avec les gamins, avec les parents, de faire le lien. Il y a des flashbacks qui sont très, très bien, je trouve, intégrés à l'histoire. de voir. Tout le monde a un petit peu des choses à cacher, des ambiguïtés.
Ouais.
Et ça, voilà, ça, mon personnage de gendarme permet juste d'aller au travers de toute cette histoire. Ouais. Ouais.
Alors, celle qui est remarquée dans ce téléfilm, c'est vous, Hélène Ducourant. Puisque...
Bah, c'est sympa pour Horatica.
Non, mais non. Alors, d'accord, Horatica, voilà. vous êtes remarquée parce que vous avez une performance, en fait, parce que vous êtes hospitalisée et vous avez, on vous a enlevé presque la totalité de l'intestin. Et vous me disiez que vous aviez rencontré des gens qui vivaient avec cette fameuse poche qu'on change et on va, dans les épisodes qui vont arriver, sans les teaser, on va voir comment vous arrivez à vivre avec ça.
Oui, parce que le personnage de Sarah va sortir de cet accident avec un handicap. Donc elle va devoir apprendre à vivre avec une stomie, qui est une poche intestinale. Et donc, pour le rôle, j'ai voulu rencontrer quelqu'un qui vivait avec ce handicap. Donc j'ai pris contact avec... Kangourou Girl, c'est son nom sur les réseaux sociaux, qui parle très librement de son quotidien et qui encourage les personnes qui vivent avec ce handicap à ne pas avoir honte et à s'affirmer, etc. Et donc je lui ai écrit directement avec le souhait que j'avais de la rencontrer et elle m'a très gentiment répondu en me disant ce sera avec plaisir d'échanger avec toi. Donc on a beaucoup parlé par FaceTime, elle est venue sur le tournage.
Ah, c'est une démarche personnelle.
Oui.
Incroyable, oui, oui. Pour préparer le rôle en fait.
Oui, pour préparer le rôle, j'avais pour moi une responsabilité vis-à-vis de ces gens à leur égard de... Voilà, oui. on incarne...
De vérité,
des...
oui. de...
On incarne des gens dont c'est le quotidien. Et nous, alors que nous, on est acteurs, voilà, on les incarne et j'avais envie d'être fidèle à ce qu'ils vivent.
Il faut signaler qu'il y a Clément Rémiens à vos côtés et François-Xavier de Maison qui est formidable dans le rôle du papa poule, quoi, un peu, qui est très très concerné par ce qui est arrivé...
Oui, ce qui est génial, c'est qu'il joue un père qui est complètement, qui se sent impuissant face au traumatisme de sa fille, qui est dans le déni et qui va devoir un peu surmonter ses peurs pour pouvoir lui donner le courage, elle, d'avancer.
Ouais. Ce soir, nos auditeurs verront une jolie scène où vous dansez avec votre papa. Moi, j'étais très ému par cette scène. Voilà.
Oui, parce qu'on a eu la chance de voir les épisodes
avant.
Oui. Horatica, qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans ce rôle à la fois de maman et de flic? C'est le double...
Ce qui m'a plu, c'était justement que ce ne soit pas qu'un rôle de gendarme, mais que le personnel se mêle au boulot, professionnel, et que tout d'un coup, je me rende compte que ma fille est indirectement impliquée dans cette histoire, dans cet accident, dans peut-être la causalité de tout ça. Et donc, je suis tiraillée entre mon rôle de mère et mon devoir professionnel. Et c'est ça qui était riche et donc qui m'a plu, évidemment, sur le personnage.
Ouais.
Et ma relation conflictuelle, un petit peu, avec ma fille.
Avec votre fille, il faut gérer, évidemment. Oui, parce qu'il y a à la fois du thriller, ce que je disais, et du drame.
Oui,
du
c'est
drame
un thriller
familial.
Un petit peu. Je trouve cette série, c'est un thriller sur les sentiments. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive à fabriquer du suspense et de la tension à partir des sentiments humains et de...
Oui, Eden, vous vouliez réagir à ce que disait Horatica?
Moi, la lecture du scénario, ce qui m'a vraiment plu, c'est vraiment que tous les personnages avaient quelque chose à défendre et une belle partition à jouer. Et ce que disait Or, c'est que son personnage, c'est pas seulement une gendarme, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup plus de dimensions que juste une gendarme.
Mais sinon, ce
sinon
oui, il n'avait pas
souvent,
de...
Souvent, on a souvent un peu le stéréotype du gendarme, et je trouve que Or a rendu ce rôle-là très moderne et voilà, avec beaucoup de relief. Mmh.
On a l'impression qu'il n'y a plus que la télévision qui offre des rôles intéressants, que le cinéma est devenu quelque chose de moins intéressant pour les comédiens. C'est vrai que vous, on vous voyait plus au cinéma et pas vraiment souvent à la télé, quand même.
Je pense qu'il y a encore des rôles. Si, il y a des rôles intéressants au cinéma, mais c'est vrai que la télévision et en plus les séries permettent de développer une palette plus riche, puisqu'on peut rentrer dans un personnage et puis découvrir ensuite que c'est autre chose. Que au cinéma, c'est souvent cantonné à une ou deux couleurs, mais on n'a pas le temps de développer. Et puis la télévision, il y a quelque chose de plus. De plus social et de plus ancré dans la réalité aussi, je trouve.
Il y a eu les bracelets rouges aussi, où on vous a vu où vous étiez formidable. Hein. C'est vrai, ce sont des rôles qui sont...
Des
beaux rôles.
Ouais.
Mais ce que disait Gilles...
Maintenant, j'aimerais bien faire une comédie, quand même.
Oui, c'est vrai, vous êtes à chaque fois quand même dans des trucs un peu lourds. Là. Et c'est quoi? Vous pensez qu'il y a aujourd'hui le genre... majeur, c'est le polar à la télé. C'est ce qui marche, c'est ce qui cartonne. Donc, comme ça marche, tout le monde fait ça. Il n'y a pas tellement de séries de comédie. Si.
Ouais, alors non, moi, je m'y connais pas.
Non,
assez
non, mais il n'y a pas. Enfin, Camping Paradis, mais il n'y a pas
vous
de.
Vous seriez bien dans Camping Paradis.
Non, mais il n'y a pas de série de qualité.
Comédie, ouais, comédie. Je sais pas.
Bah, c'est des histoires de mode, de tendance.
Bon, ça va peut-être venir.
Ça va peut-être venir.
On
voilà,
peut leur suggérer.
C'est ce qu'il faut proposer, Gilles.
Oui, moi, je voulais savoir également comment vous acceptez ce projet. Vous lisez le scénario, il vous arrive et puis et vous renseignez ou comment on dit allez,
comment
j'y vais.
Oui. Ouais. Et ben, c'est un mélange de plusieurs choses. Là, en l'occurrence, j'ai lu les scénarios. Il y avait ce double, voilà, le fait que ce soit aussi une maman et qu'elle soit qu'elle a un dilemme. Ouais. C'est ça qui m'intéressait. Et puis, j'ai rencontré le réalisateur. Et puis après, c'est de... Donc aussi, ça a été enrichissant de discuter avec lui, de voir ce qu'il voulait faire, où est-ce qu'il voulait aller. Et puis, les productrices aussi, on s'est parlé. Savoir aussi quel est le reste du casting, ou en tout cas, dans quelle direction il pensait aller. Enfin, voilà, c'est un ensemble d'éléments qui font qu'on se dit... Ok.
Et donc vous avez regardé la série avant, la série québécoise ou pas? Est-ce qu'on regarde
non,
quand
moi
on
j'ai
est...
pas regardé. Non, j'ai pas regardé. J'ai hésité.
Du courant.
J'ai hésité, mais non, je l'ai pas regardé parce que j'avais pas envie d'imiter. J'avais envie de créer mon personnage, ma Sarah, et quitte à la regarder après et me dire chouette, on a fait les mêmes choix artistiques, mais.
Bon alors, on est jeudi. Vous avez fait plein de promos. Il y a eu plein d'affiches partout sur cet film. Et bing, Jacques Chirac meurt.
Qu'est-ce que
vous dites à ce moment-là?
Ah, je vais acheter des pommes.
Non, on achète 10 kilos.
Oui, non, mais c'est vrai que la semaine dernière, c'était.
Oui, c'est vrai que.
Vous êtes dit, on va pas être diffusé. Vous vous êtes dit quoi, vous?
Oui, à un moment, je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, ils vont peut-être annuler, faire une soirée spéciale, etc. Je pense que on a peut-être un peu souffert de ça, mais non, puisque finalement on était leader.
Vous avez bien fonctionné, donc
non, tout va bien.
Et vous, ça vous a ému la mort de Jacques Chirac?
Bah, c'est toute une époque. Après, moi, j'étais pas forcément une grande
côté-là.
Fan. Non, c'est pas de ce côté-là, mais j'étais les politiciens, on sait que, enfin bon, voilà, ça a ses limites, on va dire. Mais
bah, c'était un
non,
moment,
oui, voilà, c'est une époque, c'est toute une époque. J'étais plus émue quand Prince est mort ou quand
David Bowie
est mort. Voilà.
Eden, vous disiez que vous aviez tourné à l'âge de 12 ans. Vous avez toujours voulu être comédienne.
Oui.
Ouais.
Ouais, je pense que déjà dans le ventre de ma mère, j'attendais l'action en fait
pour
sortir.
C'est vrai.
Ouais, depuis toujours.
C'est-à-dire petite,
toute petite,
vous avez souvenir de jouer.
Bah, j'ai surtout le souvenir de tanner ma mère à lui dire j'ai envie de faire des castings, et elle pensait que ça allait me passer.
Ouais.
Et en fait, je revenais à la charge, donc elle s'est dit bon, je vais envoyer son dossier à une agence. Si elle est prise, bon, on y va. Puis sinon, bah, on aura essayé. Next. Et bah, j'ai été prise, donc voilà.
Et c'est comment d'embrasser Clément Rémiens?
Ah, bah c'est bien. Je le conseille tous.
On va y aller, on va demander. Voilà. Ouais.
Non, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens sur réaction sur Twitter à ce sujet-là.
Alors, ils en pensaient quoi?
Ils vous enviaient,
voilà. Donc c'est.
Ils vous jalousaient là-dessus.
Ouais. Quelques
jeunes femmes qui t'attendent dehors.
Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous aimeriez jouer, vous? Ratika nous disait qu'elle aimerait maintenant une comédie après des rôles comme ça, un petit peu lourds.
Moi, je suis ouverte à tous les rôles tant que c'est des rôles intéressants à défendre et voilà. Mais oui, pourquoi pas une comédie? Mais bon, je pourrais repartir dans du drame, enfin tout. Tant que je joue, moi, je suis heureuse donc.
Vous êtes heureuse, c'est votre vie.
Est-ce que vous regardez la télé-réalité puisque vous êtes jeune? J'en profite. J'ai pas beaucoup de fans de la télé-réalité ici.
Pas du tout.
Vous regardez?
Oui, je regarde Les Anges de temps en temps. Je regarde, mais je le regarde comme au prisme. Ça me fait rire. Je le regarde au troisième degré.
Bon,
ok, c'est ce qu'il faut.
Ça, c'est ce qu'on dit.
C'est ce qu'on dit. C'est le côté un peu. Vos enfants, ils regardent la télévision.
J'ai une fille, oui, qui ne regarde pas la télé-réalité.
Ah ouais.
Ni la télé d'ailleurs.
Ah bah voilà.
On avait des gens
qui regardaient pas la télé ce matin.
Allez, ce sera ce soir pour Sarah, donc à ne pas manquer, avec Eden Ducourant, Horatica, Clément Rémiens, François-Xavier de Maison, Audrey Dana, Thomas Joannet. Caroline Anglade, Charlotte Lévy, Juliette Petiot, Victor Leblond, je vais tous les citer, Bruno Sanchez, Axel Gallois, Tom Dingler. Il y a un super casting, participation de Frédéric Bell et Lou, Denis et Lyon. Ça a bien marché la semaine dernière, ça devrait cartonner ce soir également. Merci Horatica, merci Eden Ducourant d'être venu.
Merci beaucoup.
Ce matin sur Sud Radio, à tout de suite, on va parler des tarifs du gaz, tout autre chose.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous pour le 10h midi, on parle des tarifs du gaz depuis lundi. Les tarifs ont baissé. Est-ce que votre facture va baisser? On va en parler. Pas facile de s'y retrouver entre les appels des démarcheurs à longueur de journée qui essayent de vous faire changer d'opérateur. On n'y comprend pas grand-chose. Comment faire le bon choix? On en parle ce matin avec Éric Butazzoni. Bonjour, vous êtes coordinateur de la CGT pour Engie. Et avec nous, Julien Tchernia, président fondateur d'Équateur, premier fournisseur d'énergie verte en France.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être là. Vous avez passé un accord avec l'UFC Que Choisir, un achat groupé qui court sur 2 ans. Vous allez nous raconter de quoi il s'agit avec des tarifs moins chers. Donc déjà, comment expliquer ces fluctuations? Peut-être que vous pouvez nous expliquer ces fluctuations sur le prix du gaz. Est-ce que la répercussion sur la facture, quand est-ce qu'on va la voir?
La répercussion se fait immédiatement. En fait, pourquoi ça fluctue? Ça fluctue essentiellement du fait de la fluctuation du prix du gaz sur les marchés. Il y a différentes indexations, le prix du gaz en Europe, le prix du pétrole. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la fluctuation ne touche qu'une partie du tarif, c'est-à-dire la partie molécule. Il y a une grosse partie qui est constituée en fait par le service public, c'est-à-dire l'acheminement, le transport, la distribution, le stockage, etc. Et cette partie, en fait, elle est payée de la même façon par tout le monde. Alors, pas tout à fait par tout le monde, parce que notamment les fournisseurs alternatifs se débrouillent pour essayer de ne pas payer une partie du service public, notamment le stockage, qui a créé des gros problèmes sur les années passées, avec un refus de payer le stockage et donc un avantage compétitif en se reportant en fait finalement sur Engie pour au cas où il y aurait un déficit.
Julien Tcherna n'est pas du tout d'accord, donc allez-y, dites-nous pourquoi.
Donc pour obtenir une licence gaz, en fait, il faut assurer un minimum de stockage et l'État, la DGEC, nous demande de prouver qu'on est capable de passer un hiver avec plus aucun fournisseur, l'hiver le plus froid depuis 20 ans. Et donc c'est vérifié tous les ans et donc ça implique un certain niveau de stockage. Alors, peut-être qu'il y a des gens très très malins ont trouvé des systèmes incroyables pour passer outre les filtres du ministère. En tous les cas, c'est pas le cas d'Équateur. On fait du stockage comme nos obligations le demandent et on se retrouve donc au même niveau avec les mêmes prix, mêmes tarifs pour tout le monde. Ouais. Effectivement, sur le stockage, il y a quand même quelque chose à dire, c'est qu'il reste un monopole d'Engie alors que les tarifs ne sont pas réglementés. Et quand vous avez un monopole, quelqu'un qui est en position de monopole sans tarif réglementé, évidemment, il a tendance à faire un peu ce qu'il veut pour ses tarifs.
Si les stockages sont maintenant régulés, mais je rappelle simplement qu'avant qu'ils soient régulés, ils sont régulés depuis très peu de temps, avant qu'ils soient régulés, le sud-est de la France, par exemple, a failli être planté il y a 2 ans par défaut de gaz. Et c'est Engie qui a été appelé au secours pour amener du gaz d'urgence à Marseille. Le sud-est de la France aurait été séché.
Ouais. Ce qui est très intéressant sur le prix du gaz, c'est que, alors il varie tous les mois depuis 2014, les tarifs réglementés.
C'est la 8e baisse cette année.
C'est ça, donc en ce moment il est beaucoup moins cher, il y a eu des moments où il était beaucoup plus cher. Vous avez en fait un impact international comme vous avez dit. Il y a une époque, effectivement le sud de la France était très très peu irrigué, puisque, et c'est ça que moi je trouve passionnant dans notre métier, suite à Fukushima, les Japonais ont consommé beaucoup beaucoup de gaz, comme pour ça il fallait acheminer beaucoup de gaz en bateau, et bien tout le gaz qui était en GNL et qui d'habitude était livré à Fos-sur-Mer, préférait aller au Japon parce qu'il gagnait beaucoup plus d'argent. Et donc le sud de la France n'était plus alimenté et il y avait un gazoduc qui allait du nord au sud qui était saturé. Et donc tout ça a des impacts sur le prix du gaz des Français au quotidien. C'est à la fois un problème d'acheminement, on ne produit pas de gaz en France, donc il faut bien l'importer quelque part.
Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est que le tarif réglementé?
Alors en fait, avant 2004, il y avait en fait un tarif unique puisque Gaz de France était en monopole. À partir du moment où il y a eu l'ouverture du marché, en fait, il a été décidé de maintenir un tarif réglementé, c'est-à-dire un tarif en fait qui est déterminé par la Commission de régulation de l'énergie et qui définit une sorte de repère de coût du gaz à coût complet sur une moyenne d'approvisionnement. Donc, historiquement, c'était le coût de gaz de France et qui permet en fait aux consommateurs d'avoir un contrat qui est basé sur un prix objectif. Voilà.
J'ai pas tout compris.
C'est-à-dire qu'en fait, il est calculé. C'est un coût complet. Alors, il faut savoir que ce coût complet, sa formule est Bon, et a été modifié dans le temps. Il y a eu des grands combats juridiques, notamment du fait de l'ouverture de la concurrence et des alternatives qui ont attaqué en justice à la fois l'État et Gaz de France quand les tarifs étaient trop faibles. Et il faut savoir que le marché du gaz, comme le marché d'ailleurs de l'électricité, c'est pas un marché où en fait la concurrence amène une baisse de prix. C'est le contraire en fait. Il a fallu augmenter les prix pour permettre l'entrée de la concurrence. Et en fait, les prix ont énormément augmenté, notamment les TRV, donc les tarifs réglementés, ont augmenté. Là, aujourd'hui, on en est à peu près à 175% par rapport à, donc plus 75% par rapport à 2004. On était à plus de deux fois en 2013. Et en fait, c'est lié à tout un ensemble de causes. D'abord, le fait qu'il y a des coûts très importants. Il a fallu poser des canalisations pour permettre la concurrence de s'installer, etc. Mais aussi des marges. Il faut savoir que jusqu'à 1993, Gaz de France n'avait pas de marge. Ouais. Et aujourd'hui, on peut estimer la marge de l'ensemble du système gazier à environ 1,5 milliard, c'est-à-dire 150 euros par client et par an. Alors que Gaz de France ne faisait pas de marge jusqu'en 1993. C'est très important de savoir.
Les marges, ça, très bien, et ça, je ne vais pas intervenir sur la marge de Gaz de France. Donc, les tarifs réglementés de vente sont définis par la loi comme couvrant les coûts de l'opérateur historique et lui assurant une marge raisonnable. Je vous assure que la Commission de régulation de l'énergie donne une marge raisonnable à Engie qui est plus que celle que nous, on aime bien mettre. Il n'y a pas eu, pour favoriser la concurrence, de déploiement de réseaux supplémentaires. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est GRT Gaz et GRD décident d'installer des réseaux pour servir les Français. Et donc, ça, c'est un volume après qui augmente. Et il y a eu une très, très forte augmentation des taxes.
Pour
le gaz, pour tout le monde. Et donc, beaucoup, beaucoup de l'augmentation des prix est en fait l'augmentation des taxes, qui est une taxe carbone, par exemple, qui est aujourd'hui pour tous les clients, sauf ceux qui achètent du biométhane. D'ailleurs, nous, Équateur, on a été les premiers à offrir un service pour les particuliers à vendre du biométhane, où là, l'État permet une exonération de ces taxes-là. Donc, la vision, la concurrence fait augmenter les prix, qui est une vision défendue par la CGT, n'est pas partagée par tout le monde.
Ouais. Comment on devient opérateur de gaz ? Comment ça se passe ?
Par envie.
Ouais.
Par envie d'apporter quelque chose
et
de différent.
Et où on trouve le gaz ? Enfin, pardon de poser des questions très, très basiques, vous l'achetez ?
Oui, c'est ça.
Donc, on rappelle que ça s'est ouvert à la concurrence, qu'il y a Alterna, Butagaz, Dinef, Équateur, Eni, Gaz de Bordeaux, Iberdrola, Total Direct Énergie, Vattenfall. Enfin, il y a quand même une multitude d'opérateurs aujourd'hui. Donc, racontez-nous un petit peu le contexte.
Personne n'en produit en France. Hein, donc, que ce soit Engie ou les fournisseurs alternatifs, on va l'acheter. Donc, les gros producteurs de gaz dans le monde, ce sont les Norvégiens, les Hollandais, les Russes, les Algériens. Il y en a d'autres, mais les Qataris. Mais ça, c'est le gaz principalement arrive en France via ces pays-là. Et puis, donc, on va l'acheter. On va aussi acheter les services qui restent des services publics de transport et de distribution qui assurent que tous les Français auront la même qualité de distribution et la même qualité de service. Donc ça, c'est très important aussi que ce soit resté un service public. Le réseau reste un service public. Et puis derrière, on va offrir à nos clients, si on a réussi à mieux négocier les prix ou à prendre... donc on va pouvoir faire un peu moins cher si on a envie de faire des services nouveaux. Donc nous, j'en parlais tout à l'heure, le biométhane. Donc l'idée d'Équateur, ça a été de se dire... Nous, on est une société qui vend de l'énergie renouvelable, dont l'objectif est d'aider aux particuliers à participer à la transition énergétique. Et donc, par exemple, quand on s'est créé, le biométhane n'était pas, entre guillemets, offert comme produit aux Français. Ouais. Et donc, on s'est dit, on va faire une société qui permet de le faire.
Comment on choisit son opérateur de gaz ? Je rappelais, parce qu'encore une fois, on a fait une émission sur les démarcheurs téléphoniques et ce qui revient le plus souvent, ce sont des gens qui vous proposent de changer de contrat. Moi, j'en ai eu. Je ne comprends rien à ce qu'on me raconte. C'est-à-dire que je ne sais pas, je suis chez Engie, je vous le dis. Comment, pourquoi je quitterai Engie ? Comment on calcule ? Et quand on a tenté de m'expliquer, je n'ai pas compris.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très difficile en matière d'énergie, que ce soit l'électricité ou le gaz, c'est très difficile de changer, de choisir, parce que en fait, en réalité, le service, c'est-à-dire l'arrivée du gaz et l'arrivée de l'électricité, il dépend de tout un ensemble d'intervenants qui fait que finalement, le fournisseur a très peu d'influence sur les choses. Et si bien qu'en fait, effectivement, il y a surtout une bataille commerciale, et Engie participe largement, et la CGT le dénonce, sous fort. Alors, il y a plusieurs façons. Il y a effectivement le démarchage téléphonique, il y a le démarchage physique, qui pose énormément de problèmes, sur lesquels nous, CGT, on a alerté plusieurs fois, donc c'est-à-dire les démarcheurs à domicile qui toquent à la porte, etc. Il y a une autre forme de démarchage assez aussi perverse, j'espère que ça va se calmer, C'est notamment avec les détaillants type Darty, par exemple. Mmh. En fait, vous achetez un aspirateur et vous revenez chez vous et vous apercevez une semaine après que vous avez changé de fournisseur. Oui, il y a eu plusieurs procès, etc. Voilà. Donc, nous, évidemment...
Non, mon opérateur de téléphone m'a proposé de changer de...
Alors, dans les faits, il est... Puisque donc, nous, c'est notre quotidien d'aller trouver des nouveaux clients. Ouais. Dans les faits, il est très, très simple de changer de fournisseur. Vous allez sur Internet, vous mettez votre adresse et un numéro que vous retrouvez sur la facture de votre fournisseur actuel.
Parce que les tuyaux sont les mêmes.
Et donc, ce qui va changer, ce n'est pas du tout la qualité de service. C'est d'ailleurs la même énergie qui va arriver chez vous. C'est la même molécule. On ne va pas tracer la molécule de gaz. La question auquel répond le fournisseur, c'est à qui va mon argent ? Donc, est-ce que je veux donner mon argent à Total ? Est-ce que je veux donner mon argent à Engie ? Ou est-ce que je veux donner mon argent à une petite start-up ? Et puis, combien je paye ?
C'est pas aussi simple que ça. Oui, c'est le combien je paye. C'est-à-dire qu'il y avait des engagements aussi. Je me souviens quand ça a commencé, quand on a commencé à voir arriver différentes offres, il y avait des engagements sur des tarifs sur plusieurs années, sur ce fameux...
On va trouver, comme à l'époque des télécoms au début de l'ouverture, une multitude d'offres tarifaires. Donc aujourd'hui, chaque fournisseur essaie de proposer ce qui correspond le mieux à ses coûts et ce qui pense plaira le plus aux clients. Par exemple, nous, on n'a qu'une seule offre de prix. On pense que il faut être simple, on ne va pas faire une offre 3 ans, 1 an, indexée à la baisse, à la hausse, on pense que c'est trop compliqué, et donc on fait une seule offre de prix, d'autres fournisseurs pensent autre chose, et donc effectivement ça permet au client de choisir ce qui lui paraît le plus protecteur pour son portefeuille.
Et qu'est-ce qui est le plus protecteur, de prendre une offre qui s'ajuste au tarif du gaz ou de s'engager sur un tarif sur plusieurs années ?
Normalement, aujourd'hui, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'au au tout début de l'ouverture du marché, en fait, le choix d'une offre de marché entraînait le renoncement définitif à des tarifs réglementés. Et puis finalement, pour différentes raisons, notamment de protection du consommateur, il a été décidé qu'il pouvait y avoir des allers-retours. Aujourd'hui, en fait, grosso modo, tous les contrats peuvent être résiliés quasiment immédiatement, ce qui fait que, grosso modo, un client peut passer du tarif réglementé à une offre Équateur, à une offre d'un autre, et puis revenir chez Engie en offre de marché. Enfin, c'est assez... voilà, mais encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que les offres, elles sont en gros de l'ordre de 5 à 10% en dessous du tarif réglementé. Attention, c'est 5 à 10% uniquement de la partie molécule, donc ça fait de l'ordre de 3 à 4% de la facture, alors que la facture elle-même, elle, je le répète, a augmenté de 75% depuis 15 ans.
TTC.
Donc en réalité, même sans les taxes, ça a augmenté de façon très très importante. Et je rappelle que les fournisseurs alternatifs, au moins à l'époque, ont été en justice plusieurs fois, c'est même une partie de leur revenu, pour faire condamner Gaz de France parce que les tarifs étaient trop bas. Ce que, évidemment, nous, on conteste, puisque nous, en fait, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait on appelle ça pôle public de l'énergie, qui est plus large, mais surtout ce que demande une commission avec des associations de consommateurs, des élus et des organisations syndicales pour pouvoir contrôler et vérifier la formule du tarif réglementé. Alors bon, certes, le tarif réglementé n'a plus une grande durée de vie, mais en tout cas, c'était notre revendication parce que derrière, il y a énormément de... le calcul est pas si clair que ça. Il y a des tas de paramètres qui rentrent en jeu. Les sources, il y a tout un ensemble. Ce serait trop long de le faire. Mais... Et donc encore une fois, nous on était pour un repère sur une valeur objective du prix du gaz. Il faut savoir quand même que là, la France est à contre-courant, elle est en train de supprimer les tarifs réglementés, alors que par exemple un pays comme l'Angleterre, le temple du libéralisme, ils ont été obligés recréer un tarif plafond parce que les tarifs étaient tellement hauts que les gens ne pouvaient plus se payer le gaz. Donc voilà, nous évidemment, on est contre l'ouverture du marché qui a coûté un pognon de dingue, comme on dirait, et qui aujourd'hui et l'organisation, organise une surenchère entre des fournisseurs, mais le problème pour nous n'est pas là.
Allez, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300, pour poser vos questions. On parle des tarifs du gaz, comment choisir son opérateur. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, on parle des tarifs du gaz, comment choisir son fournisseur de gaz, comment choisir l'offre la moins chère. On en parle avec Julien Tchernia, qui est fondateur d'Équateur, premier fournisseur d'énergie verte en France. Équateur qui vient donc de remporter l'appel d'offres de l'association l'UFC Que Choisir. C'est un achat groupé, donc il fallait s'inscrire avant. Vous allez nous en dire quelques mots. Et Éric Butazzoni, coordinateur de la CGT Énergie, pour vous, l'ouverture du marché du gaz à la concurrence empêche Engie de jouer avec les mêmes armes que ses concurrents. Parlez-nous de cette offre donc de l'UFC Que Choisir. Ben,
donc l'UFC Que Choisir,
ça fait plusieurs années déjà.
Oui, c'est leur sixième édition en gaz.
Propose des achats groupés pour payer moins cher. C'est-à-dire l'union fait la force.
Exactement. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font un site où tous les particuliers peuvent se préinscrire. Et puis, en parallèle, ils sélectionnent des fournisseurs en nous imposant des conditions générales de vente qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on va trouver classiquement chez la plupart des fournisseurs. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont présélectionné les fournisseurs qui veulent participer et qui acceptent de se soumettre à leurs conditions, ils ferment les préinscriptions et ils nous disent, aujourd'hui, on a, et donc en ce moment sur le site, électricité plus gaz, je crois qu'il y a 250 000 préinscrits sur cet achat groupé. Puis ensuite, ils font des enchères inversées. Et donc, je vous avoue qu'en tant que fondateur de société, c'était une demi-journée assez stressante. Et donc, nous, on a remporté ces enchères inversées avec une offre qui est 16% moins chère sur le kilowattheure hors taxe. Hein. Donc, ça reviendra à 12% moins cher TTC pour les clients.
Oui.
Donc pendant deux ans.
Que répond Engie face à ça?
Engie, je ne sais pas. Ouais. Pour ce qui est de la CGT, si vous voulez, la question de ces enchères pose la question, en fait, on va dire de l'équilibre économique des alternatifs. Poweo, qui était le premier concurrent, a disparu. Il n'a jamais fait un euro de bénéf. Direct Energy a disparu. Il n'a fait quasiment pas de bénéf, sauf sur les procès qui menaient contre les opérateurs historiques. En fait, Engie, si aujourd'hui Engie faisait une offre à moins 16%, il serait directement le lendemain au tribunal assigné par les fournisseurs alternatifs pour dumping. C'est clair. Quand Engie vend trop bas, il est accusé de dumping. Quand il vend trop haut, on dit que c'est un prédateur en monopole. De toute façon, quel que soit ce que fait Engie, il n'est pas au bon prix. Donc voilà, après, encore une fois, Engie a encore, c'est ténu, mais il a encore des obligations de service public. Il paye encore pour un certain nombre de choses. Tout à l'heure, je parlais du stockage, mais il y a d'autres éléments. Et ces éléments, je le maintiens, ne sont pas intégrés nécessairement dans les offres des alternatifs. Mmh. Et tout à l'heure, M. Tchernia parlait du contrôle de l'administration. Je peux vous dire que ça fait très longtemps qu'on est en relation avec l'administration et le ministère de l'Industrie et qu'on sait très bien qu'il n'a pas les moyens de contrôler la loi de 2003 sur la validité de la garantie de sécurité d'approvisionnement des fournisseurs alternatifs.
Moi, je suis très très malheureux pour Engie. Hein. Ça, c'est vrai, quand j'entends comme vous souffrez, vous êtes quand même que la troisième entreprise du CAC 40, peut-être deuxième maintenant. Et donc, effectivement, c'est très très dur pour Engie. Oulala. Et chaque jour, quand on fait des offres plus intéressantes, on se dit, est-ce qu'on va vraiment le faire? Parce qu'Engie va être mis en difficulté. Donc, dans les faits, ça va quand même pas mal pour Engie. Et on gagne toujours de l'argent à moins 16%. Après, chacun a ses structures de coûts. Et nous, évidemment, on est plus petits. Et donc, on n'a pas une structure de coûts qui est celle d'une grande multinationale. Donc, je pense que c'est ça qui nous permet d'être plus compétitifs. La question sur la rentabilité. Ensuite, bon, c'est une question de gestion d'entreprise. Hein, et chacun s'adapte. En tous les cas, cette année, c'est une question qui était devenue très importante pour UFC Que Choisir, puisqu'ils nous ont demandé, avant d'avoir le droit de participer, de prouver qu'on avait les moyens de financer une telle croissance. C'est quelque chose de nouveau par rapport aux autres éditions, où ils ont insisté énormément en disant, bon, attendez, vous n'allez pas faire n'importe quel prix, vous allez me prouver que vous êtes capable de financer les offres que vous allez proposer.
Il y a une auditrice qui nous dit l'Union européenne a obligé à la libre concurrence. La France avait les prix les plus bas d'Europe en électricité, bien placée en gaz, et cette libre concurrence a fait augmenter les prix de façon exponentielle.
Alors, sur l'électricité, 70% de l'augmentation depuis l'ouverture du marché, c'est une augmentation des taxes. Le reste, c'est une augmentation de la partie service public, transport, distribution, sur le prix de l'électricité, sur le prix de l'énergie pure. ça s'est resté stable. Et depuis très longtemps, malgré ce que les hommes politiques nous disent, le prix de l'électricité et énergie pure est moins cher en Allemagne qu'en France. Si vous regardez sur les marchés, on a en général un marché allemand qui est un peu plus bas que le marché français. Alors sur le gaz, le prix du gaz lui-même dépend énormément de la politique. Et c'est sûr que quand la Russie envahit l'Ukraine, ben, ça va avoir un gros impact sur le gaz. C'est sûr que si demain... les États-Unis attaquent l'Iran, bah, je pense que l'ENG et nous, on va devoir réagir. Donc,
mais alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là par rapport aux tarifs ? Moi, si je m'engage avec vous sur un tarif, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, si vous êtes chez nous sur un tarif fixe, nous, on aura déjà acheté le gaz et donc vous n'aurez pas de variation de tarif. Si vous êtes au tarif réglementé de vente et qu'il y a une augmentation de prix de marché, comme le tarif réglementé de vente change tous les mois, bah, vous allez subir cette augmentation. Et de la même manière, vous profiterez des baisses. C'est un choix. Personne ne peut dire...
Et qu'est-ce qui est le mieux ?
Après, ah ben, c'est une question,
oui, c'est ça.
Nous, on laisse le choix au client. C'est-à-dire qu'un client qui est en tarif variable chez nous peut aller sur son espace client parce que, je ne sais pas quoi, Poutine réenvahit l'Ukraine, il appuie sur le bouton et fixe son prix. Donc, parce que moi, je ne peux pas vous dire, moins 16% maintenant, c'est aujourd'hui le meilleur tarif. Est-ce que dans deux ans, ce sera toujours le meilleur tarif ? Ça, je serais mentir que de vous l'affirmer.
Mais ce que vous disiez, c'est qu'aujourd'hui, Éric Butazoni, on peut quitter... je peux quitter Équateur à tout moment revenir chez Engie.
Voilà, on peut quitter les fournisseurs librement. Maintenant, si je reviens à la question de, enfin, la remarque de l'auditrice, ce qui est vrai, c'est qu'avant les directives européennes, donc, qui datent des années 90 et début 2000, il y avait un système d'approvisionnement de long terme qui était fixé grosso modo d'État à État entre, et donc entre Gaz de France et les principaux pays fournisseurs. Donc à l'époque, c'était l'Algérie, la Russie, etc. Et en fait, ça permettait de garantir un lissage, notamment un lissage de prix et une sécurité d'approvisionnement. Aujourd'hui, en fait, les directives qui ont créé un marché font qu'effectivement, grosso modo, le prix est calé sur le marché Europe, mais il y a aussi une influence des autres marchés, notamment tout à l'heure on parlait du marché asiatique, qui détournait notamment les cargaisons de gaz naturel liquéfié. Et donc aujourd'hui, effectivement, les tarifs peuvent très bien, les prix de gros peuvent très bien évoluer très fortement d'une semaine à l'autre et seront répercutés sur les consommateurs.
Sur les consommateurs.
Et ce qui est intéressant quand on rentre dans ce marché, c'est qu'on se rend compte que les tarifs réglementés de vente il y a une formule, mais ils peuvent être aussi politisés, et parfois au détriment du consommateur. Par exemple, en décembre, il y avait les gilets jaunes, et donc le gouvernement, pour faire une annonce, pour essayer de calmer la grogne sociale, a dit « nous allons bloquer les prix du gaz ». Sauf qu'ils étaient en baissier.
C'est ça.
Et que s'ils n'avaient pas baissé les prix du gaz, bloqué les prix du gaz, le tarif
gaz
réglementé
baissé.
De vente aurait baissé beaucoup plus qu'il ne l'a fait jusqu'en juin. Donc, il y a une idée que j'avais moi-même quand j'étais jeune, qui est l'État nous protège. L'État nous protège, par contre, les politiques vont aussi regarder d'autres facteurs que juste le facteur prix, chose que nous, les alternatives, nous ne faisons pas. Mmh. Et donc, là, il y a un choix citoyen, chacun doit se poser la question, tiens, est-ce que je choisis la direction 1 ou la direction 2 ?
On peut signaler qu'il y a un comparateur internet, comparateur-offre.energie-info.fr, où vous mettez votre code postal, votre type de consommation, et ça vous fait une estimation de tous les fournisseurs. C'est fiable, vous le conseillez ?
Ça, c'est le comparateur du médiateur de l'énergie. C'est un comparateur de référence qui est très très bien fait.
Merci à tous les deux. On se retrouve dans quelques instants. La suite du 10h midi et on va commenter l'actualité avec vous. À tout de suite.